BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez comme chaque semaine sur BPM pour découvrir ou redécouvrir une association sociale sur le Montois. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de l'ASTI, l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés. Et pour en parler, Mike Deschamps, présidente de l'association, et Béatrice Lemoine, secrétaire de l'association en charge des cours de français. Mesdames, bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ASTI ?
Alors, l'ASTI est une association, donc association de solidarité avec les travailleurs immigrés, comme son nom l'indique, qui a été créée en 1996 par des militants de la Ligue des droits de l'homme qui ont vu qu'il commençait à y avoir beaucoup de problèmes d'accès aux droits pour les étrangers et qui ont voulu créer une association qui était dédiée à ça. C'est une association qui est entièrement composée de bénévoles, qui est indépendante, qui n'a pas de financement public, et donc qui, d'un côté, fait des permanences d'information et d'accompagnement juridique, en particulier sur le droit des étrangers, et d'autre part, fait des cours de français pour permettre aux gens qui arrivent en France de s'intégrer plus facilement.
Quand est-ce que vous avez rejoint l'association ?
Moi, j'ai commencé à faire des permanences de façon très régulière à partir de ma retraite, c'est-à-dire en 2007.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers cette association en particulier ?
Ben, je pense que j'avais une... Comment est-ce qu'on dit ?
Une
tendance à me préoccuper d'accès aux droits. J'étais enseignante avant, donc dans le cadre de mon métier d'enseignant, j'ai souvent vu des enfants ou des jeunes qui étaient en difficulté, voilà, qu'il fallait aider. Donc je pense que c'était, il y avait quelque chose de ça. J'étais déjà à la Ligue des droits de l'homme, donc
ça découlait un peu naturellement.
C'était assez naturel.
Vous nous avez parlé de permanence. Comment ça fonctionne ?
Alors on fait deux permanences qui sont maintenant à l'Agora.
Donc de Mantes-la-Jolie.
À Mantes-la-Jolie, oui, bien sûr. Donc boulevard du Maréchal-Juin, comme chacun sait. Donc les deux permanences, il y en a une le samedi matin, de 9h à midi, où là, on fait un accueil sans rendez-vous, c'est-à-dire que les personnes qui ont besoin d'une information, qui ont un problème, etc., peuvent venir sans rendez-vous, ce qui fait qu'il y a énormément de monde. Là, actuellement, il est arrivé qu'on ait 46 personnes à la permanence depuis qu'on est à l'Agora. C'était beaucoup, beaucoup trop pour qu'on les reçoive. Malheureusement, on n'a pas pu recevoir tout le monde dans ce cas-là. Et pour assurer ces permanences, en gros, on est 6 ou 7, parce qu'il faut accueillir ces personnes, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a des tables. Là, actuellement, on est soit 3 ou 4 sur des tables dispersées dans une grande salle pour qu'il y ait quand même un minimum de confidentialité, où on essaye d'évaluer la situation de la personne avec elle et puis de voir qu'est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Et des fois, c'est très compliqué, non seulement par rapport aux droits, parce que c'est pas tant ça, enfin, il y a beaucoup de problèmes, parce que les lois sont de plus en plus restrictives et les gens ont de plus en plus de mal à faire valoir leurs droits. L'autre problème crucial aujourd'hui, c'est la dématérialisation. Et des gens qui n'auraient jamais eu de problème auparavant se retrouvent dans des situations terribles, avec perte de leur titre de séjour parce qu'ils n'ont pas réussi à le renouveler à temps, avec des situations où vraiment c'est compliqué pour eux.
Les gens qui viennent vous voir majoritairement sont dans quelle situation ? Depuis combien de temps sont-ils sur le territoire ?
Ah, c'est très variable. C'est très variable. On peut avoir ce qu'on appelle un vieux travailleur retraité dans un foyer qui avait des cartes, on appelle ça des cartes de résident, des cartes de 10 ans. Donc depuis, je ne sais pas, ils en sont à leur deuxième ou troisième renouvellement de titre de séjour. Et ils n'ont pas réussi à le renouveler, parce que d'un seul coup, eux, ils avaient l'habitude d'aller à la préfecture. Mais maintenant, on ne rentre plus dans la préfecture si on n'a pas de rendez-vous. Donc il faut prendre rendez-vous sur Internet. Et vous imaginez bien qu'un retraité immigré qui a 65 ans, qui a passé sa vie chez Renault ou dans une autre usine, ou à faire du nettoyage ou autre, il a un portable, mais il n'a pas d'ordinateur pour prendre un rendez-vous.
Là, c'est
sachant que pour le renouvellement, il y a des rendez-vous qui s'ouvrent le lundi matin à 8h et ça dure au mieux 3 minutes. Donc il faut être sportif du clic
pour avoir la souris rapide.
Il faut avoir la souris rapide pour avoir le rendez-vous. Donc ça, c'est des personnes qu'on peut rencontrer, mais on peut aussi rencontrer des personnes qui viennent d'arriver, qui sont réfugiés, enfin qui voudraient, ils ne sont pas réfugiés encore, mais qui sont demandeurs d'asile, on va dire, et qui ne savent pas comment faire pour accéder à la procédure de demande d'asile. Et puis on a tout entre les deux. On a des gens qui peuvent être là sans papier depuis plusieurs années, qui sont en famille, des femmes qui sont venues rejoindre leur mari, mais pas par le regroupement familial, parce que soit le mari ne pouvait pas le faire, enfin bon, pour d'autres raisons, et qui cherchent à régulariser leur situation, qui travaillent souvent, mais qui n'ont pas le titre de séjour et n'ont pas les droits qui vont avec.
Et là, comment vous faites pour les accompagner ?
Ben, d'abord, il faut bien, bien, bien identifier la situation, parce que c'est tellement complexe que si on prend le mauvais chemin, on est sûr de ne pas y arriver. Et puis après, ben, c'est beaucoup de patience pour les personnes aussi, parce que sachant que là, on est sur des régularisations à titre exceptionnel, admission exceptionnelle au séjour, ça s'appelle. Donc là, il faut remplir un questionnaire, apporter des papiers, etc. Et envoyer tout ça par mail à la préfecture. Donc déjà, il faut accompagner les personnes pour faire ça. Bon, et après, un rendez-vous pour un salarié, quelqu'un qui a travaillé, donc qui a des bulletins de salaire, dont le patron a rempli la demande d'autorisation de travail sur le CERFA qu'il faut. Enfin bon, voilà. On envoie ça à la préfecture et il faut attendre 18 mois pour avoir le rendez-vous. Et une fois qu'on a le rendez-vous...
Ça, ce sont les délais moyens ?
C'est les délais actuels. C'est le délai actuel à la préfecture de Versailles. Voilà. S'il s'agit de quelqu'un qui demande un titre pour une raison familiale, donc imaginons quelqu'un qui est marié avec quelqu'un en situation régulière mais qui n'est pas venu selon la bonne procédure, là, actuellement, c'est 12 à 14 mois pour obtenir le rendez-vous après avoir été 5 ans sans papier en France.
Justement, quelles sont les conditions, voilà, parce qu'il y a des conditions avant de pouvoir postuler ou en tout cas espérer avoir un titre de séjour.
Alors, la première condition, c'est que la loi est très claire. Quelqu'un qui n'est pas rentré en France avec le visa D, c'est-à-dire le visa long séjour d'installation qu'elle a obtenu quand elle était au pays, donc qui a déjà rempli toutes les conditions, si quelqu'un qui ne rentre pas avec ce visa D n'a pas droit à un titre de séjour. Quelqu'un qui vient avec un visa touriste ne pourra pas être régularisé s'il reste après. Voilà. Bon, évidemment, ça c'est la loi, mais quand il y a une loi, il y a toujours quelques exceptions. Donc on tombe sur ces admissions exceptionnelles au séjour. Et là, c'est minimum être resté en France pendant 5 ans de résidence régulière avec des preuves chaque année, alors qu'on n'a pas de papier, qu'on n'a rien.
Justement, comment on fait pour prouver que ça fait 5 ans qu'on est dans un pays dans lequel finalement on n'a pas le droit d'être à ce moment-là, mais même pour trouver du travail, vous parlez de travail, mais comment on trouve un travail quand on est dans un pays de façon illégale ? Ou alors pas comment on fait, puisque bien sûr, il n'en est pas question.
C'est la grande contradiction de la loi, et c'est ça qui met les gens dans des difficultés, qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on leur dit qu'il faut travailler pour avoir des papiers. D'accord. Mais il faut des papiers pour travailler. Donc voilà, là on est au cœur du problème. Donc, les gens qui ont quelques relations, ils vont trouver un employeur qui va être complaisant et qui va accepter de les embaucher sans papier dans le but qu'ils obtiennent ensuite des papiers. Ça veut dire qu'il faut que le travailleur soit exceptionnel, qu'on ait vraiment besoin de lui, et que le patron soit exceptionnel aussi, parce qu'il se dit, cette personne-là, j'en ai besoin, donc, voilà, je vais après permettre qu'il soit régularisé. Si l'employeur, cherche à faire régulariser son salarié qu'il a pris en ignorant, on va dire, voilà, il ne sera pas poursuivi. Mais, en attendant, s'il le fait travailler, il risque toujours d'avoir un contrôle et de se retrouver avec un emploi illégal, donc avec des amendes. qui sont renforcées là dans la nouvelle loi. Et voilà. Bon. Donc soit c'est ça, soit les gens, ben, ils se débrouillent, quoi. Ils travaillent avec la carte de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de professions, dans le bâtiment en particulier, où les gens sont embauchés par des entreprises d'intérim. On leur dit pas, vous n'avez pas les papiers, on leur dit, trouve une carte, et puis tu reviens.
Voilà. Et ensuite,
ça fait 5 ans. Et puis, ça incite aussi au trafic illégal de papier. Hein. Ça s'achète, les cartes.
Mais comment prouver que ça fait 5 ans qu'on est sur le territoire? Parce que c'est difficile, du coup, de pouvoir établir ce délai.
Oui. Ben alors, les papiers qui sont... Soit c'est des papiers de l'administration. Donc, peut-être les gens ont fait une demande d'asile en arrivant parce qu'ils auraient voulu avoir le statut de réfugié. Donc, ça, tout ça, c'est facile. Soit c'est des ordonnances de médecins. Les seules choses que les personnes peuvent avoir actuellement, c'est l'aide médicale d'État, s'ils n'ont pas de papier. Donc, voilà, ils ont l'aide médicale d'État. Ils vont garder les factures des passes Navigo. Ils vont garder les ordonnances de médecins.
La moindre trace, finalement, la moindre trace de passage.
Le moindre papier. On dit que c'est des sans-papiers. Moi, les sans-papiers, ils ont des valises de papier. Des valises. Parce qu'ils gardent tout, parce que ça peut être une preuve de présence en France.
Donc pour les personnes qui viennent vous voir, qui arrivent à justifier de ces 5 ans, quel est ensuite le parcours?
Ben je vous dis, on envoie une demande à titre exceptionnel à la préfecture.
Là ensuite,
on attend le rendez-vous. Le jour du rendez-vous, la personne se présente à la préfecture avec un dossier bien épais. Les preuves de présence, les preuves de travail, les déclarations d'impôts, de revenus, etc. Et puis là, on va lui donner... Si le dossier est accepté, s'il manque quelque chose, un acte de naissance pas comme il faut, je ne sais pas quoi, on leur dit vous reviendrez plus tard. Donc si le dossier est accepté, on va leur donner un récépissé de demande de titre de séjour, qui ne donne toujours pas l'autorisation de travail, même si la personne était salariée avant. Et puis ils vont attendre que la décision soit prise, et on va leur donner un premier titre de séjour temporaire de 1 an. Et ben, le titre de séjour temporaire, c'est déjà pas long, 1 an, mais il faut le faire renouveler, commencer la demande de renouvellement 4 mois avant la fin, parce que sinon, à la fin, on a toutes les chances de se retrouver sans papier, parce que le rendez-vous donné pour le renouvellement, il sera en juillet, alors que votre titre, il expire en mai.
Et à chaque fois, il faut penser à tous ces délais, finalement.
Tout le temps.
Voilà. Et donc à la fin du premier exceptionnel, on peut refaire une demande pour un
renouveler. Après, le renouvellement est plutôt plus facile puisqu'il s'agit de montrer que la situation n'a pas changé. Donc on continue à travailler, on continue d'être en famille avec des enfants, on continue, etc. Mais c'est quand même chaque année une source d'inquiétude pour les gens. Ils pensent qu'à ça. Donc après, ils voudraient bien avoir un titre pluriannuel. Mais maintenant, pour avoir ce titre pluriannuel, il faut passer un examen de français qui est pour beaucoup inaccessible.
Et c'est là que Béatrice intervient.
Et c'est là que Béatrice intervient, voilà.
Pour revenir un peu sur ce que vous faites, vous donnez les cours de français aux immigrés pour atteindre un certain niveau, c'est ça?
Alors, oui, mais très peu de personnes qui fréquentent nos cours atteignent le niveau B1. Hein. C'est-à-dire que...
Alors, pour expliquer les niveaux.
Alors, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails des niveaux. Hein. Ce que je vais expliquer surtout, c'est d'abord le type de permanence que nous offrons, nous, l'ASTI. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille au CVS de Gassicourt. Et on a ouvert 2 cours, le lundi soir de 18h à 20h et le jeudi matin de 9h à 11h. Et le cours du jeudi matin est spécialement réservé aux femmes. Donc c'est un choix que nous avons fait, nous, les enseignantes de ce cours. Donc le lundi soir, il y a une équipe de 7 professeurs, la plupart issus de l'éducation nationale. Hein, ce sont des personnes bénévoles qui viennent animer ces cours. Et puis, et pareil pour le jeudi, donc deux personnes... issu de l'éducation nationale.
Comment vous fonctionnez ce qui est, donc il y a des, vous dites vous êtes 7, ça veut dire que vous faites des petits groupes de niveau. Combien d'élèves il peut y avoir?
Alors, le lundi accueille en gros 25 à 30 personnes le lundi soir parce qu'ils sont une équipe de 7 et donc ça leur permet de répartir les personnes en fonction de leur niveau et de travailler avec des petits groupes de niveau. Et nous, le jeudi, nous travaillons avec maximum 10 personnes. Et de la même façon, nous consacrons beaucoup de temps à l'oral, hein, avec tout le groupe, qui doit exister en tant que groupe, et puis ensuite en petit groupe, en respectant les groupes de niveau, parce que vraiment ça s'étale de l'alphabétisation, hein, de personnes qui n'ont pas été à l'école dans leur pays, à des personnes qui arrivent à un niveau au collège. Mais très vite, ces personnes qui arrivent à un niveau collège, on les oriente ailleurs, parce que nous, on ne les prépare pas, comme évoquait Mike tout à l'heure, sur les diplômes B1, A2, enfin, etc. On a le cahier des compétences. Par exemple, nous, actuellement, le jeudi, on a une personne que l'on oriente et qu'on va aider à atteindre ce niveau, mais c'est exceptionnel. C'est plutôt vraiment des primo-arrivants, des apprenants de petit niveau.
Est-ce que ce sont des personnes qui arrivent à suivre les cours quand même de façon régulière? Vous avez des groupes réguliers?
Alors, c'est la difficulté. On a un noyau en général de réguliers, mais souvent, de par leur situation de recherche de travail, les personnes quittent le cours ou ne peuvent plus venir. Nous, on a ouvert le cours, alors je parle du cours du jeudi matin, exprès pour que les femmes qui ont des enfants, puissent venir travailler pour elles. Mais le lundi soir aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent après leur travail. Il faut être très courageux pour venir suivre des cours de français.
Parce qu'il y a déjà toute la fatigue de la journée.
Absolument. Donc on sent des gens fatigués et usés aussi par la vie parce que leurs vies sont difficiles. Et actuellement, comme le décrivait Mike, c'est-à-dire que les situations ne s'arrangent pas. Donc les gens rencontrent vraiment des difficultés énormes à vivre, à survivre, je dirais même.
Vous avez parlé des niveaux à atteindre. Alors, on sait que B, on est déjà sur quelqu'un qui parle vraiment plutôt pas mal.
C'est celui qui écrit bien et qui comprend bien.
Comment ce niveau, il est demandé à atteindre, par exemple, pour avoir ensuite les fameuses cartes de séjour pluriannuelles dont vous parlez? C'est quelque chose qui est un critère important?
C'est un critère important, mais pour les personnes qui fréquentent nos cours, c'est une étape encore un petit peu trop haute.
C'est-à-dire la marche est grande.
Là, ce qu'on vit, c'est l'intégration, l'autonomie, hein, c'est-à-dire que pour la plupart des femmes, qu'elles puissent se débrouiller seules et aussi défendre leurs droits, donc d'une façon autonome. Donc, on est plutôt dans le cadre de l'intégration et de la maîtrise du français pour la vie quotidienne.
Aujourd'hui, le niveau A2 ou B1 suivant le titre, c'est obligatoire. Si on n'a pas le papier, le dossier n'est pas pris.
Parce qu'il passe ensuite une forme de diplôme?
Il y a un test. Oui, il y a un test qui coûte entre 100 et 150 euros à passer dans un organisme privé de formation qui fait ça, dans des conditions en plus peu adaptées aux personnes qui n'ont pas l'habitude, parce que ça se passe comme dans un laboratoire de langue, hein. C'est exactement les mêmes tests que les tests qu'on doit passer pour venir étudier en France quand on est un étudiant étranger qui doit passer ce test pour rentrer à l'université. Alors après, tout n'est pas le même niveau, mais tout est fait. Moi, je regarde les tests et les situations qu'on les met, etc. C'est votre ami, fête son anniversaire, il vous invite, racontez l'anniversaire. Pensez bien qu'une femme qui est au Val Fouré avec ses enfants, raconter l'anniversaire de l'ami qui fête chez lui son anniversaire, c'est pas vraiment la situation qui lui est utile. Mais parce que les tests sont pas faits pour eux, spécialement. Mais il faut quand même, ça désigne un niveau qui, soi-disant, est le niveau requis, universel, que tout le monde doit parler.
Bon. Et vous sentez cette volonté quand ils viennent pour apprendre?
Ah oui. C'est-à-dire que toutes les personnes, c'est indispensable. Et, Et il y en a qui rencontrent des grosses difficultés parce que bon, elles sont envahies par leurs problèmes personnels, etc. Mais la volonté, elle est là, hein, elle est là. C'est-à-dire que oui, les gens veulent s'intégrer, ils veulent rester en Bien France sûr. Et ils font tout pour acquérir la langue.
Là aujourd'hui, combien de personnes vous pouvez accompagner? Vous avez une notion de combien de personnes vous suivez?
Moi, je dirais qu'en ce moment, c'est plusieurs centaines. Donc, à la permanence juridique. Alors, à des degrés divers, comme je vous disais. Mais ça tourne sûrement entre 300 et 400. On a une armoire qui est pleine. On fait encore des petits dossiers papier pour les gens pour faire le suivi, justement. On a une armoire qui est pleine de dossiers.
Depuis que vous avez commencé à l'ASTI, quelle évolution vous avez vue?
Un durcissement. Une précarisation de plus en plus grande, une espèce de mise à l'écart très très manifeste, parce que non seulement les gens n'accèdent pas à leur droit au séjour, puisque c'est d'abord ça qu'ils demandent, mais ils n'accèdent pas non plus, même une fois qu'ils ont le droit au séjour, à leur droit. Ils ont tous des difficultés avec la sécurité sociale, avec la caisse d'allocation familiale, avec le pôle emploi, avec tout ce que vous voulez, à cause de la dématérialisation, qui fait que plus les gens sont précaires et isolés, moins ils accèdent à tout ça. On parle beaucoup de 30% de non-recours aux droits sociaux des gens de tout le monde en France, hein, pas seulement les étrangers. Mais vous imaginez bien que les gens qui ont des difficultés avec la langue, avec l'informatique,
rien n'est fait pour aider, vous pensez?
Ah bah ça c'est sûr, rien n'est fait pour aider. Et comme à cause, je sais pas, de restrictions budgétaires, de changements de façon de travailler, en particulier depuis le Covid, où plus aucun service public n'accueille personne en présentiel, comme on dit. Hein? Donc il faut tout le temps passer par le téléphone, par Internet, par prendre un rendez-vous, par etc. Mais comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Déjà, nous, on a du mal quand il faut refaire des papiers ou quand il faut... on ne comprend pas toujours ce qu'on nous demande. Il n'y a rien de plus déstabilisant et de plus excluant qu'un formulaire à remplir sur Internet. Si vous ne mettez pas exactement ce qu'il demande dans la case où vous devez le mettre, des fois c'est des bêtises, hein. Nom de l'employeur, c'est une case alphabétique. Et bien votre nom d'employeur, il y a un chiffre dedans. Ben ça passe pas.
Ça peut être bloqué rapidement. Par...
Donc vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer, ça se bloque, c'est tout. Tout est fait pour que les gens ne s'intègrent pas, pour finir. Et après, on leur reproche. Les immigrés, regardez, ils sont en ghetto, ils sont tous ensemble, ils ne veulent pas s'intégrer.
Et à contrario, quand il y a une petite fenêtre qui est ouverte, par exemple ce matin, là, le CVS est venu nous présenter une affiche parce qu'il y avait une rencontre avec les assistantes sociales qui voulaient parler de leur métier de demain, et donc c'était ouvert à tous les gens qui le souhaitaient. Quand on a eu expliqué ce que c'était que cette séance, etc., nous avions 8 femmes ce matin au cours, il y en a 5 qui se sont inscrites. Vous voyez, donc demain, il y aura effectivement en présentiel des assistantes sociales qui pourront répondre. Et j'ai posé la question de l'interprétariat, s'il y avait, il y aura des dames pour gérer l'interprétariat. Ouais, donc oui, c'est bien. Donc c'est la différence.
Là, c'est le hasard qui a voulu que vous soyez au bon endroit au bon moment pour le savoir, finalement.
Oui, exactement. Mais
peut-être ça, c'est un petit signe d'espoir. C'est-à-dire qu'à force, les administrations sont bien obligées de se rendre compte que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ils remettent des petits des petites actions. Mais bon, voilà, c'est infini.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir, pour l'association?
Oh là, qu'on n'ait plus besoin de nous.
C'est ça.
Ce serait magnifique.
sur les personnes.
non, mais c'est vrai. Et dans un premier temps, surtout que les services d'accès numérique soient réellement ouverts et accessibles.
À tous et toutes.
Parce que, je veux dire, en gros, ce n'est pas le boulot de l'association, quoi, de se dépatouiller avec l'informatique. Nous, on voudrait déjà permettre aux gens d'accéder à plus que ça. Mais bon.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Mesdames, merci beaucoup d'être venues nous présenter l'ASTI, l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour une nouvelle association sur BPM. Très bonne journée.